Comme ça, vous m'avez vu. Mais merci à tous, parce que j'apprécie bien cette église. Depuis quelque temps, maintenant, ça va faire un an que nous sommes là. Et avec Dominique, c'est vrai que nous prenons plaisir, malgré qu'on ne connaisse pas bien, mais on apprécie les cultes, on apprécie la relation des uns avec les autres. Merci Seigneur pour ton peuple, pour chaque maison qu'il donne. Et on voit que l'on peut être tranquille. Chaque fois que l'on change d'endroit, on retrouve des frères et sœurs. Alors, je vais essayer d'être pas trop long. Hein. Je voudrais commencer par une histoire. En fait, c'est juste une façon de voir. Alors, il était une fois, ça commence comme ça les histoires, deux hommes, tous deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. L'un des hommes fut autorisé à s'asseoir dans son lit pendant une heure, chaque après-midi, pour aider à drainer le liquide de ses poumons. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme, lui, devait passer ses journées couché sur le dos à regarder le plafond. Les deux hommes parlaient pendant des heures sur la mort. Ils parlaient de leurs épouses et familles, de leur maison, leur emploi, leur participation dans le service militaire où ils avaient été en vacances. Puis, petit à petit, une douce intimité s'installait entre eux. Chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son compagnon, la chambre, tout ce qu'il voyait par la fenêtre. La fenêtre donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes s'ébrouaient sur l'eau, tandis que les enfants jouaient avec leur bateau modèle. Les amoureux marchaient, bras dessous, au milieu des fleurs, de toutes les couleurs, et on pouvait avoir une belle vue de la ville. C'était calme, la douceur de vivre, comme il la décrivait bien. Et ça faisait du bien à l'autre qui était là. Un matin, l'infirmière de jour est arrivée pour apporter de l'eau dans leur bain et trouva le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil. Elle était attristée et appela les préposés pour qu'ils viennent prendre le corps. Dès que cela fut approprié, l'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. Ah, bien sûr, l'infirmière était heureuse de faire changement et après s'être assurée qu'ils étaient confortablement installés, elle le laissa seul. Et puis lentement, péniblement, il se redressa sur un coude pour jeter son premier regard sur le monde réel de l'extérieur, sur ce lac, sur tous ces gens qui étaient là, extraordinaires. Il s'étira dans de grandes souffrances pour se tourner lentement vers la fenêtre à côté du lit. Et là, il fut stupéfait. Il faisait face à un mur blanc. L'homme appela l'infirmière et demanda pourquoi son compagnon de chambre décédé avait décrit ces choses merveilleuses depuis la fenêtre. L'infirmière répondit que son compagnon était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Elle lui dit, « Il vous a parlé avec les yeux de son cœur. Il ne pensait pas à lui, mais à vous, son compagnon, pour vous permettre de voir au-delà de votre lit de souffrance. » Il disait, c'est l'amour que je vois. Ce sera l'introduction pour notre réflexion de ce matin. Et je vais répéter souvent cette phrase que j'aime tellement, parce que quand je regarde Jésus, quand je regarde Dieu, c'est l'amour que je vois. Je vous propose maintenant une autre histoire. Alors là, ça va être un petit peu plus vivant, on va dire. Il était une fois la vie. Nous allons entendre une histoire vraie, c'est notre histoire. Et ce matin, j'ai un scoop. Je suis venu avec le roi de gloire. Est-ce que c'est pas le même que le mien ? Psaume 24, versets 7 à 10. Moi, j'ai pas ça. Désolé. On peut éteindre, c'est pas grave. Je vais le lire hein, dans ma Bible. Dans ma Bible. J'espère que c'est la bonne. Donc, psaume 24, les versets 7 à 10. Porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Laissez-moi vous ouvrir la porte d'un pays de bonnes nouvelles. Un pays éternel, un bon pays où les gens sont gentils, où le mal n'existe pas, un pays de rêve, et pourtant, si ce rêve existait bien. La Bible nous parle comment le voir, et ça c'est l'amour que je vois. Prions. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur pour m'avoir permis de voir cet amour que je vois. Parce que c'est vraiment dans le monde où nous vivons la chose prodigieuse, la chose la plus extraordinaire que de pouvoir contempler cette réalité dont nous allons nous rappeler un peu ce matin, de qu'est-ce que c'est que cet amour que je peux voir par l'esprit que tu as mis en moi, que tu as mis en nous. Et je prie, Seigneur, que déjà tu mettes ta main sur notre chère sœur qui avait l'air bien éprouvée ce matin, que justement tu lui donnes de pouvoir voir l'amour que je vois, qu'elle aussi puisse le voir avec beaucoup de liberté et qu'elle soit ainsi réjouie dans son cœur. Nous prions pour son petit enfant. Seigneur, nous avons nous aussi un petit Archie qui est né il n'y a pas longtemps, qui a aussi quelques petits problèmes, bon, rien de comparable, mais nous prions toujours avec beaucoup de tremblement lorsque cela s'adresse à de petits enfants comme ça. Et Seigneur, je veux me joindre vraiment à cette souffrance. La souffrance est une vieille compagne que je connais bien, et je prie pour cette dame. Que tu mettes ta main. Je prie pour sa famille, pour les parents. Seigneur, prenons le temps toujours de penser à ceux qui souffrent, ceux qui sont avec toi et qui justement ont besoin de repos. Je prie pour ce passage ce matin, Seigneur, que justement il était une fois la vie. Quelle vie ? Eh bien, nous allons en parler. Et que les uns les autres, nous puissions être encouragés. C'est mon but. Et je te demande de m'aider, Seigneur, parce que tu sais combien je suis faible, et combien, si ce n'est pas toi qui fais, eh bien, ça servirait à rien. Donc je prie que tu mettes les paroles dans ma bouche, dans mon cœur, que mon esprit soit ouvert, et que je puisse ainsi être ton porte-parole. Dirige-nous ce matin, Seigneur, ensemble, à simplement écouter ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Donc alors, prêt pour ce voyage ? En route pour connaître cette histoire, et il faut pour cela que je vous dise quelque chose, c'est que pour entendre cette histoire, il faut se déshabiller le cœur. Dieu veut parler à notre cœur. Le langage de Dieu, c'est le langage du cœur. C'est la raison du mal de notre monde. Il lui est très difficile d'entendre et d'écouter Dieu. Dieu parle à mon cœur et Dieu veut parler à votre cœur. Alors prêt pour embarquer sur le bateau de la vie merveilleuse, avec Dieu aux commandes, nous prenons la mer pour une destination extraordinaire. Je vous invite sur cette destination extraordinaire. Il était une fois l'univers. Et dans le cœur de l'univers, le Créateur, Dieu. Quelle perspective, hein, quel paysage que d'imager. Nous sommes en route, bien. Dans la Bible, le début de toutes les histoires, nous commençons par la Genèse. Genèse, chapitre 1, nous n'allons pas le lire, lisez-le chez vous, connaissez l'histoire. Les versets 1 à 31, Dieu créa l'homme, à côté de l'homme, la femme, et tout est bon, tout est très bon, tout est beau avec Dieu. Vous allez me dire que j'extrapole, que je vais trop loin, mais non, je me trouve que je vais même pas assez loin. La grandeur de Dieu, l'infini de Dieu, je ne sais pas ce que c'est l'infini, moi. J'en ai entendu parler, j'en ai des idées. L'amour de Dieu, cet extraordinaire amour, oui, j'imagine. Et je me dis que le jour où je vais le rencontrer, ça va déborder, ça va certainement m'envahir, et ça va me rappeler que je dois être humble, parce que je ne sais pas grand-chose. Mais en attendant, nous sommes là. Et nous voilà dans un jardin fantastique. Ça commence bien, mon histoire, elle est belle, hein? Et en plus, c'est une histoire vraie. Et puis, un peu plus loin, dans le chapitre 3 de la Genèse, eh ben, il y a les versets 1 à 23, vous connaissez aussi. Nous voyons la désobéissance de l'homme et de la femme, et voici le mal, le péché. C'est la fin de l'histoire merveilleuse. Désolé, les amis. Ça s'arrête là. Le péché a tout changé. Et nous sommes dans cette situation. La terre est souillée par le péché. Frères et sœurs, ne croyez pas surtout ce que d'autres racontent pour nous dire que c'est pas vrai. On n'est pas si mal que ça. C'est faux. Par rapport à Dieu et à la création qu'il avait faite, aujourd'hui nous sommes dans quelque chose de pas très agréable. On marche dans la gadoue, comme on dit. C'est la mort spirituelle de l'homme. C'est l'état de l'homme aujourd'hui qui, par sa désobéissance, est séparé de Dieu. Et Dieu dans tout cela, eh bien Dieu, il n'est pas comme cela. Le péché, c'est pas Dieu. Il ne faut pas lui donner. Il faut rendre ce qui est à Dieu. Un de mes professeurs disait toujours, occupez-vous fortement du bien. Vous êtes des enfants de Dieu, occupez-vous au bien. Le diable, il s'occupe du mal et il le fait bien. Il faut arrêter de faire descendre Dieu dans le monde. C'est un petit peu aussi ce que font certaines religions. Mais plutôt nous élever pour voir sa gloire. Et c'est l'amour que je vois. C'est ça quand je lève les yeux, quand j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi et que je me laisse pénétrer par cet esprit d'amour, alors l'amour que je vois, c'est vraiment le véritable amour. Dieu est éternel, infini, parfait de lumière. Dans son espace de sainteté, il est tout puissant, il sait tout. Rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je suis un enfant de la rue. Hein, j'ai été ramassé dans le ruisseau, j'ai pas eu de parents, enfin bref. Voilà, j'ai été élevé par la sauvegarde de l'enfance. Et je suis arrivé jusqu'à l'âge adulte, comme j'ai pu, branque-ballant, comme ça, sans savoir ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'est qu'une maman. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Bonne fête, les mamans. Bonne fête, les grands-mères. Même si c'est, vous avez été maman un jour. Ma femme, elle me dit, je suis pas ta mère. J'ai dit, oui, je sais, mais t'es la mère de mes enfants. Voilà, c'est une chose précieuse. Voilà. Merci à toutes ces mamans qui... Moi, j'ai toujours été admiratif, et je le dis, elle le sait, hein, j'ai pas peur. Admiratif de ma femme parce que c'est une vraie maman. Elle a ce don de maman. Et les enfants, nous, on a eu des clubs d'enfants pendant je sais pas combien d'années. Les enfants, ils collent à ma femme. Parce qu'ils sentent que c'est une maman. C'était une petite aparté. Le monde a perdu son âme. Il a mal au cœur et il a mal à la tête. Est-ce que vous avez mal à la tête des fois? Moi, j'ai mal à la tête. Mon histoire n'est pas finie. Attendez, je vous ramène en arrière. Il y a 21 siècles dans une étape. Rappelez-vous, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout ici est bon. Comme c'est bon. Et vous voyez, j'ai laissé courir ma plume, j'ai dit, je voudrais être avec eux. Ça devait être bien. Et ça, c'est l'amour que je vois. Cependant, Dieu le Père est triste. L'homme qu'il a créé est sourd et muet. Son cœur n'entend plus. Allô ? Ça grésille. Il y a du brouillage. Dieu a du mal à entendre. Nos cœurs sont pleins de mauvaises choses. C'est encombré. La grâce a du mal à passer. Il y a très longtemps, je suis chrétien depuis quand même de nombreuses années maintenant, j'ai lu un livre qui était « Dieu dirige mes affaires ». Et cet homme expliquait, c'est un Américain, il expliquait que donc, il dirigeait des grosses affaires, vous savez, de terrassement avec des, moi j'appelle ça des bourses. Les trucs, les roues sont plus grandes que nous, hein, vous voyez, des trucs gigantesques. Et pour faire court, il disait, quand on pense que ces grosses bêtes, eh bien, le jour où le petit tuyau qui amène le gasoil, il y a un grain de sable, elles ne peuvent plus bouger. Elles sont terrassées. Et c'était un bon exemple pour dire que le péché, c'est un peu comme ça dans notre vie. Je gardais cette histoire, vous voyez, c'est vieux, je n'ai plus les détails. Cependant, donc, Dieu est triste. Dieu, dans son univers de bonté, pose la question. Qui sauvera l'homme de son péché? qui ramènera l'homme dans l'univers divin, dans notre présence. Oui, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est son souhait le plus profond. Et donc, il va toujours se poser toutes ces questions. Alors, du fond de l'univers arrive cette voix du Fils, le porte-parole de l'amour, du pardon. Jésus qui dit, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Oh, imaginez un petit peu ça. Moi, j'imagine, parce que ça doit résonner. On dit que la voix de Dieu, c'est comme des grandes eaux qui grondent comme ça. J'imagine un petit peu ce brouhaha, un gigantesque qui va jusqu'à rebondir contre les montagnes, et puis d'entendre du plus profond du monde, hein, de l'infini, cette petite voix, mais cette voix qui est tellement pure, tellement limpide, qu'elle vient jusqu'au cœur du plus petit, et qui dit, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et ça, c'est l'amour que je vois. Rappelez-vous, dans la Bible, l'histoire de l'homme qui est Dieu. Dans cette étable, Dieu a mis le comble à son amour. Écoutez, puisque c'est écrit dans la parole. Il y a ça, 2000 ans, le Fils de Dieu est venu payer le prix du péché de l'homme, le prix de notre tristesse, de la paix de notre âme. Lisons plutôt Jean 3,16. Non, on ne va pas le lire. On va le réciter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien, vous connaissez ? Attendez, mon histoire n'est pas finie. Mais ce verset-là de Jean 3,16, c'est bien l'amour que je vois. Jésus nous a donné un exemple de vie renouvelée. Je vous ai dit que notre histoire, c'est l'histoire de la vie, et de la vie en abondance. Eh bien, cette histoire nous concerne, car Dieu veut nous rappeler une chose essentielle, et surtout à nous, chrétiens. Et frères et sœurs, je ne sais pas si le pasteur me redonnera la possibilité de reprocher, mais j'aimerais continuer sur cette idée des choses essentielles. Dans la Bible, il y a des choses essentielles. Ce matin, la Bible va nous aider à voir deux choses essentielles. Vous voyez, pour l'instant, on est dans l'introduction. On viendra dans les textes bibliques, ne vous inquiétez pas. Le premier, mon histoire n'est pas finie. Cette histoire nous concerne car Dieu nous a rappelé une chose essentielle, mais surtout à nous chrétiens, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, dans Ésaïe, un verset que moi je chéris. C'est pour cette raison que tu peux naître de nouveau, tu peux recommencer, maintenant, encore et encore. Je pense à ce frère tout à l'heure qui a prié, je lui dis là maintenant que aucune peur, aucune crainte, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Au contraire, pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Bénis cet homme, Seigneur. Alors, comment on fait? Parce que c'est facile de parler, je baratine, hein, et puis on se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, voyons deux textes de la Bible. Le premier, bien sûr, de Jésus. Si je devais parler, je laisserais la parole à Jésus. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui est venu nous dire. Et souvent, en évangélisation, je prends le sermon sur la montagne. Tout est dit. Tout est écrit dans ce merveilleux manuel que l'on appelle. Donc tout commence avec Jésus, c'est lui qui régénère notre vie endormie ou éteinte. C'est lui qui guérit mon mal de tête. Ça va pas bien, j'ai mal à la tête. Aïe, 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 aïe. Je devrais pas dire j'ai mal à la tête, je dis j'ai mal à la tête parce que ça arrange. Et je devrais dire j'ai mal au cœur. Parce que c'est là que ça se passe. Quand je me suis laissé un petit peu endormir. Mais je voudrais vous dire une chose aussi, c'est que à la conversion, on est, je ne sais pas comment vous, mais moi je me suis converti avec Fernand le Grand. Ça a été une véritable révélation, un choc qui m'a vraiment percuté de plein fouet. Et depuis ce moment-là, je dirais que les choses n'ont plus jamais été pareilles. Mais comme il m'avait dit, à la conversion, C'est pas fini. Dieu a fait l'essentiel du travail, c'est vrai. Mais maintenant, il va falloir que toi, tu commences à apprendre à marcher avec Dieu et à vivre avec Dieu. Et je continue d'apprendre. Hein. Ça fait 40 ans, mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, il paraît. Parce que quand j'oublie, il me rappelle, il dit, tu sais rien. Donc le premier de Jésus, je vous emmène maintenant dans Philippiens 2, les versets 1 à 8. Nous allons voir deux textes connus. Et j'aime ce texte, j'aime Paul. Paul, il a un caractère flambant comme ça. Ses textes, ils percutent de plein fouet. S'il y a donc de l'encouragement en Christ. C'est le bon texte, hein? Ouais, c'est bon. S'il y a de la consolation dans l'amour. S'il y a une communion de l'esprit. S'il y a de la tendresse et de la compassion. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour. Un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais, et c'est ça, là le mot important, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Nous ne sommes plus dans le monde. La loi du monde ne régit plus notre Église. Notre famille est complètement différente. Elle est régie par les lois de Dieu. Et Paul en parle si bien. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Vous voyez, le texte ne dit pas qu'il ne faut pas s'occuper de ses propres intérêts. Non, 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 ne dites jamais ça, c'est pas dit. C'est dit qu'avec ses propres intérêts, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ton travail, des frères et sœurs, etc. Mais considère aussi ceux des autres. Et les autres comme supérieurs à vous-même. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et là, badaboum. Là, on tombe devant la réalité que nous sommes incapables de faire ça. Lui, qui est de condition divine, pas n'importe qui, il est Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Il y a encore l'autre après. Ouais, on peut lire. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'ai pris ma grosse Bible avec gros caractères, c'est une 21, donc j'ai le même texte normalement. Ce texte nous parle d'une chose essentielle. C'est ce qui est important. Je ne suis pas un théologien, hein, je ne vais pas vous faire un cours sur Philippiens, quoique j'aimerais bien, parce que c'est bien Philippiens. Mais ce texte est très important parce que, déjà, c'est au conditionnel. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, etc., etc. Il pose la question parce que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une obligation. On s'aperçoit que parfois dans les églises, de l'amour, il y a de l'amour propre, mais pas forcément de l'amour de Dieu. Donc on peut prier pour ça. Et un même cœur, une unité de pensée. Donc vous voyez, on est interpellé directement par ce texte, par des choses qui sont absolues. Avec Dieu, pas de demi-mesure. Les demi-mesures apportent de grandes blessures. Pas de demi-mesure. Moi, je suis un extrême, ma femme, elle vous le dira. Je suis un extrémiste. Alors pour moi, c'est assez facile. Et j'adore Dieu, parce que justement, il est dans cet absolu. Tout est parfait chez Dieu. Dès que je lève la tête, je n'ai pas besoin de me poser de questions. Il est plein de lui. Je suis celui qui suis. Je ne pose pas de question de savoir qui j'ai été avant ou après. Je suis celui qui suis. Moi, ça me plaît, ce texte. Ça me percute de plein fouet parce que ça me démontre véritablement qu'au-dessus de moi, il y a non pas quelque chose, mais un Dieu qui est au-delà de ce que je peux imaginer. Un Dieu extraordinaire, chez qui tout est beau. Quand il a eu fini de créer, il a regardé, il a dit, et voici, tout est très bon. Eh, quelque chose quand même. Si vous aimez un petit peu la grammaire, un peu le français, ce que j'aime, parce que ancien typographe, j'aime ça, eh bien, j'aime discerner dans les mots la réalité de ce que l'on peut nous dire. Si tout est très bon, ça veut dire qu'il n'y a rien de mal. En opposition. C'est clair? Mais c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Alors je vais pas essayer de prendre Dieu en haut puis de le mettre parmi nous et de dire tu es maintenant l'un des nôtres. Alors que Dieu est venu parmi nous pour dire je vais essayer de faire de vous l'un des nôtres. Je vais vous élever dans la gloire. Et un jour vous viendrez avec moi. Alléluia! Ça n'a rien à voir. On est dans autre chose. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est la première chose que veut nous dire ce texte ce matin, l'humilité. Mais pas l'humilité humaine, hein, celle que l'on entend. Vous savez, je suis humble et j'en suis fier. Vous connaissez ça, hein? Non, l'humilité qui consiste à regarder les autres comme étant supérieurs à soi-même. Je pense d'abord aux autres. Et quand je fais quelque chose, je me dis toujours, est-ce que j'ai, ma femme va vous dire, j'ai l'esprit tordu. Et c'est vrai, je suis un type très compliqué. Je suis toujours en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il va penser si ça ne marche pas ? Je ne devrais pas, c'est vrai. Mais c'est quand même vrai aussi que je dois me poser des questions. Est-ce que je fais du tort ? Est-ce que je peine quelqu'un ? Est-ce que j'ai mal fait ? Et je sais que souvent j'ai mal fait. Parce que je suis un pécheur. Je suis un homme comme les autres, misérable. Vous pensez que vous êtes comme ça, vous aussi ? C'est une bonne question que Dieu nous interpelle. Quand je me mets face à Dieu, je vois Dieu. Et face à Dieu, ben, je suis un misérable, je le reste. Je le sais. Et c'est pour ça que je crie vers Dieu, parce qu'il ne se lasse pas de me pardonner. Ça fait partie aussi de la grâce divine, qui est infinie. Laissez-vous baigner complètement. Je pense à Pierre, quand Jésus est venu laver les pieds, il dit, non, ne lave pas les pieds, lave tout. Prends tout. Et dans la grâce, c'est vrai, quand je, le matin je prie, que je dis Seigneur, pardonne-moi, je pense à David aussi dans les psaumes qui nous dit comme ça, vous vous souvenez ce verset, il dit, pardonne-moi même les péchés que j'ignore et que je n'ai pas manqué de faire. Parce qu'il connaît Dieu, il voit Dieu dans sa sainteté, sa perfection, et il n'est pas question de cacher un péché. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu sait même ce que moi je ne sais pas. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Continuons, parce qu'autrement je suis là demain matin. Attendez donc, où est-ce que j'en suis ? C'est une histoire qui a une fin heureuse. Et j'aime bien les histoires qui finissent bien. La question c'est pourquoi et comment ? Eh bien, pourquoi c'est que je vais vous inviter à vous entraîner physiquement ce matin. Nous allons faire un petit marathon. Je vais vous demander de faire 30 centimètres avec moi. Il faut descendre de la tête jusqu'à notre cœur. Parcourir 30 centimètres de grâce. 30 centimètres d'humilité. Parce que l'humilité, elle n'est pas là. Ici, il y a l'ambition, il y a l'intérêt, il y a tout ce que vous voudrez. Et là, en bas, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la quête de l'amour des autres. J'ai besoin que les autres m'aiment, j'ai besoin que Dieu m'aime. Et là, justement, dans cet infini, j'entends cette réponse du Père qui dit, ne crains rien, je t'aime. Parce que c'est vrai. Dieu est saint, l'homme en désobéissant s'est séparé de lui. Aujourd'hui, il est pécheur. Pour Dieu, chaque fois que nous péchons, c'est une guerre dans notre âme. Mon cœur est révolté. C'est injuste et j'ai mal à la tête. Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Dieu appelle, Dieu nous appelle. Venez, venez, c'est pas là, c'est 30 centimètres plus bas. C'est dans le cœur que ça se passe. Dieu a tant aimé le monde, toi et moi. Dieu est intervenu en envoyant Jésus, son Fils, mourir à notre place, prenant sur lui à la croix le péché du monde. Dieu a accepté ce sacrifice parfait. Jésus est mort à cause du péché, une fois pour toutes, pour les péchés passés, présents et à venir. C'est vrai. La Bible le dit, et moi je crois tout ce que dit la Bible. Elle est utile pour convaincre, instruire et corriger. Dieu parle par elle. Laissez-moi vous confier un secret de ma vie. La Bible parle, mais parfois mon cœur est sourd. Le péché grignote sa part, et j'ai mal à la tête. Il me faut renaître. Moi, chrétien converti, je dois revenir à la croix et demander pardon. Me repentir, et là, à chaque fois, le miracle se produit. Je ne sais pas pour vous. Parfois, je lis la Bible et il ne se passe rien. Mais quand je reviens comme ça, il se passe un miracle. Chaque fois que je réentends la parole de Dieu, je reprends ma Bible et elle devient la parole de Dieu, 30 centimètres plus bas. C'est tellement vrai. Et ça, c'est l'amour que je vois. Alors maintenant, que faut-il faire ou comment on fait? Voilà la bonne nouvelle et c'est le miracle de la vie. Voyons notre deuxième texte en conclusion, 2 Corinthiens 5. J'ai mis 17 à 20, mais je ne sais pas si je n'avais pas mis plus avant. Non, non, c'est bon. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Passage connu aussi, mais tellement, tellement vrai. Encore une fois, nous sommes au conditionnel. C'est intéressant de voir que Paul met toujours la condition. Je crois que c'est la condition de notre libre arbitre. Nous avons toujours la possibilité de choisir. Il ne faut jamais dire « je ne peux pas choisir » parce que ce n'est pas vrai. Ce que je peux dire, c'est « Seigneur, j'y arrive pas ». Et dans Philippiens 2, un petit peu plus loin, il y a des versets, il y a ce verset extraordinaire qui dit comme ça, « Il vous donnera le vouloir et le faire » selon son bon plaisir. Dieu veut nous donner le vouloir et le faire. Est-ce que vous y croyez? Parce que l'important, voyez-vous, l'important avec nous dans la vie chrétienne, c'est pas de faire semblant de croire, ou c'est pas de croire un petit peu. Je crois en toi, oui, et je crois aussi, ah, ouais, comme disait quelqu'un quand j'étais jeune chrétien, ça m'avait choqué, il disait, ouais, je vais jouer au loto, hein, bien sûr. Dieu n'a jamais dit qu'il donnerait, mais on ne sait jamais, des fois, je gagne, ça peut servir, et je prie pour ça. Et moi, j'étais là, jeune chrétien, je disais, mais comment on fait pour s'en sortir? Une autre histoire, pour vous dire, dans la religion, ce que c'est. Je suis allé travailler en Corse à l'époque, enfin, je suis allé faire un essai, j'y suis pas resté, parce que les Corses, ils ont du boulot, mais ils nous le donnent. C'est pas eux qui vont le faire, j'en avais jusqu'aux oreilles. Et j'ai 70 heures dans la semaine, je n'étais pas capable de faire plus, j'ai dit stop, j'arrête. J'emmène pas ma famille ici. Mais bref, j'avais contacté, j'étais vraiment converti de quelques mois. Hein. J'avais contacté une église, même mon patron m'avait demandé, et c'est lui qui m'avait trouvé une église protestante évangélique. Oh, protestant d'accord, évangélique, bien sûr. Et le dimanche, alors moi jeune chrétien, je n'avais pas étudié la Bible, hein, je ne savais rien. Donc le dimanche, le pasteur était venu me voir, et puis il me dit, on est dans un rassemblement œcuménique. Et dimanche, eh bien, ça se passe à l'église catholique de ça. Alors moi, j'étais catholique de nom, mais j'avais horreur de l'hypocrisie. Toujours, d'ailleurs, j'ai horreur de ça. Et donc, pour moi, l'église catholique, c'était, je me rassemble sur le parvis, je fais le malin, et je dis du mal de mon voisin. Alors, bon, c'est schématique, hein, on est d'accord? Mais c'est quand même une petite réalité de la religion. Alors, de me retrouver dans une église catholique, avec des statues. Alors, je vais à la messe, quoi. C'était le pasteur qui prêchait, j'écoute, je regarde. Puis à la fin, il était réuni dehors avec le curé, tout ça discutait. Et moi, je me pointe, j'étais outré. Puis je dis, mais attendez, imaginez avec ma candeur de jeune chrétien. Et puis, mon caractère, c'est pas rien non plus. Je le reconnais. Je ne suis pas qui là-bas devant. Et je vois le pasteur, je dis, oui, d'accord, bonjour, c'est bien. Je dis, mais attendez, je ne comprends pas, là, on est dans une église catholique. Je dis, oui, non, mais c'est pour rassembler. Je dis, et les statues, elles servent à quoi? Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert? Ah non, mais ça, c'est... Je dis, non, elles sont là. La Bible dit qu'il ne faut pas faire ces choses-là, des images taillées ou quoi que ce soit. Et puis, je suis parti. Mais c'est pour dire que on peut avoir une intégrité parsemée dans ma tête, Et puis dans mon cœur, je peux aussi avoir d'autres choses. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Quand on a demandé pardon pour quelque chose, avec sincérité, une véritable repentance dans son cœur, c'est passé. Dieu dit comme ça que nos péchés sont envoyés au fond de l'océan. Elles disparaissent de la vue. Lui, il ne les voit plus. De toute façon, le péché, Dieu ne peut le voir. D'accord ? Donc, anciennes sont devenues, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et chose importante, il nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous à son appel. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Nous vous en supplions, frères et sœurs, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et ça, c'est l'amour que je vois. Fini le mal de tête. Le pardon libère et la grâce guérit. Avec Dieu, c'est toujours possible de recommencer. Et autant de fois que nécessaire. Ne vous laissez pas accuser par le diable. Le diable, il vient et il dit, t'as vu, hein, t'as demandé pardon, puis plouf, plouf, et t'as recommencé. Ben oui, moi ça m'arrive. Et j'ai passé du temps à marcher dans le désert, à comprendre que le diable n'est pas Dieu. Et il faut que je choisisse qui je crois. Moi, je crois que Dieu a dit la vérité dans sa parole. Et voilà ce que je vois. Je dois revenir à la croix et demander pardon. Et là, 30 centimètres plus bas, je redécouvre mon Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Voilà la bonne nouvelle et c'est le miracle de la vie. Pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut de l'humilité. Dans Philippiens 2, nous avons entendu ce qu'il nous faut avoir, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et voilà l'amour que je vois, si j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai besoin de revenir souvent et de repartir à zéro. Je suis un pécheur, mais le miracle permanent, c'est que Dieu m'aime, et ça, c'est vraiment l'amour que je vois. Dieu a tant aimé le monde. Voilà l'amour que je vois. Et pour finir, sachez que j'aime la famille de Dieu. Donc je vous aime. Dieu vous bénisse.